Ça, c'est souvent un mythe qui est véhiculé sur la grossesse pour autrui, sur la maternité de substitution, c'est que c'est une entraide familiale ou amicale. On a détaillé un échantillon ontarien. 95% des protagonistes ne se connaissaient pas. Donc on n'est pas du tout dans la majorité des cas qui sont des entraides familiales ou amicales.
Mais le fond de ma question, c'est nous sommes tous libres dans cette logique de choisir de prêter ou de louer notre ventre.
Alors, cette liberté présumée, elle porte atteinte à la dignité humaine.
Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact, comme je le fais maintenant, exactement comme un métronome. À chaque début d'épisode, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important, ça fait une différence pour le référencement. Vous pourrez nous trouver à peu près partout. On existe maintenant sur Rumble, sur Odyssey, en plus d'être sur YouTube, mais aussi Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts. Voilà pour l'intendance. Je vous présente le sujet de la semaine. Je vous propose de prendre en fait le temps de revenir sur la question très clivante, c'est le moins qu'on puisse dire, de la grossesse par autrui. On parle aussi de maternité de substitution, un concept et une pratique très marginale il y a quelques années encore et qui devient une réalité de plus en plus prégnante dans notre monde moderne où les frontières de la technique biomédicale sont continuellement repoussées, mais où les questions éthiques sont beaucoup plus difficiles, elles, à trancher. Depuis le 31 mai 2023, apparemment ça n'a pas été difficile puisque l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité le projet de loi 12 qui encadre la pratique de cette grossesse par autrui. Mon invitée, Clémence Trilling, est catégoriquement, elle, opposée à cette unanimité et milite plutôt pour l'abolition de la pratique. Vous avez écrit, et je vous cite dans une lettre au quotidien La Presse, « Le Canada est devenu la destination numéro un du tourisme reproductif, la plaque tournante d'une industrie des ventres alloués. » Et j'ajouterais que sur cette question des ventres alloués, on est résolument dans une industrie milliardaire. Ce n'est pas moi qui le dis, les statistiques existent. Dans quelques années, au tournant des années 2030, donc la GPA pourrait représenter un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars et même davantage. Clémence Trilling, bonjour, merci d'être là.
Bonjour Monsieur Bureau, merci de votre invitation.
Si vous aviez à vous présenter, qu'est-ce que vous représentez ou qui représentez-vous?
Alors, je suis militante féministe. Je parle ici aujourd'hui au nom de la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution.
Ça existe, cette coalition?
Oui, elle existe et on a des membres dans de très nombreux pays.
Vous êtes nombreux et nombreuses?
Est-ce qu'on est nombreux et nombreuses? Mais on est très actives. Et en ce moment,
donc, vous me dites peut-être pas nombreux et nombreuses, mais actives.
On est très actives. En ce moment, mes collègues sont à La Haye en train de manifester et d'interpeller les membres de la conférence de La Haye qui vont débuter bientôt leurs travaux pour traiter de la filiation dans les cas de maternité de substitution.
Oui, ce sont des enjeux évidemment très importants que ces liens de filiation, parce que c'est un enjeu qui s'est posé quand on a légalisé les mariages homosexuels. On s'est demandé quels seront les liens de filiation. J'imagine que c'est le même exercice. Vous avez commencé en me disant « je suis féministe ».
Oui.
Pour vous, qu'est-ce que c'est que d'être féministe, pour qu'on se comprenne? Parce qu'il y aura, apparemment au Québec, on a encadré cette pratique que vous voulez vous voir abolir à l'unanimité. Au nombre de celles qui ont voté, plusieurs qui se diraient féministes?
Oui, effectivement. Notre coalition, elle est centrée vraiment, on prend la perspective des femmes et on prend la perspective des enfants. Et on prend la perspective aussi des droits collectifs, plutôt que des droits individuels. Donc, les droits collectifs des femmes. Et quand on prend la grossesse pour autrui sur une analyse féministe, on en arrive à la conclusion que c'est pas une pratique qu'on peut accepter dans une société égalitaire et avancée comme la nôtre. Elle doit être combattue parce qu'elle va à l'encontre des droits fondamentaux et de la dignité humaine. La loi, elle dit que la filiation avec la mère porteuse sera réputée ne jamais avoir existé. Et ça efface complètement la mère de l'histoire de l'enfant, de son histoire. Mmh. Et ce lien, qui est pourtant le lien qui est fait par la grossesse et l'accouchement, il est effacé par la loi.
Mais on est mère ou père pour plein de raisons. J'imagine que des bonnes raisons, c'est d'avoir porté un enfant, mais aussi le fait de l'élever pendant 10, 15, 20, 30 ans, même participer encore comme parent, ça compte aussi. C'est-à-dire que dans l'équation, le fait d'avoir porté est certainement pas accessoire, mais au total, si des parents aimants, comme quand on adopte, se sont occupés d'un enfant toute sa vie, ils sont légitimement aussi ses parents, non? Je joue l'avocat du diable avec
oui,
vous.
Oui, 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 c'est très intéressant. C'est quelque
c'est
chose
qui... C'est non seulement intéressant, c'est aussi la vérité de plein d'histoires familiales.
Oui. C'est souvent qu'est-ce qui est mis de l'avant pour faire accepter la maternité de substitution et le recours aux mères porteuses, c'est que ce serait la même chose que l'adoption. Or, ce sont deux pratiques totalement différentes. L'adoption, c'est un geste de solidarité. C'est un geste qui vient réparer un tort qui a été causé à un enfant par les aléas de la vie. C'était pas un tort qui était intentionnel. Et toutes les GPA, il y a une séparation avec la mère à la naissance. Donc, les enfants nés par GPA et les enfants nés par adoption sont tous les deux séparés de leur mère. Donc,
vous présumez qu'il y a à terme un traumatisme potentiel pour ces enfants et peut-être aussi pour les mères qui auront, à un moment donné de leur vie, choisi de porter sans réclamer de lien avec ces enfants-là. C'est ce que vous me dites.
Mais pour les enfants adoptés, on le reconnaît, ce préjudice. On reconnaît que tout nouveau-né séparé de sa mère vit un préjudice. D'ailleurs, au Québec, c'est interdit de séparer les petits chiots et les petits chats de leur mère dans un élevage, par exemple. On les laisse auprès de leur mère, c'est interdit de les séparer. Mais les enfants qui sont nés de GPA, ils sont séparés de leur mère immédiatement après la naissance.
Alors, vous avez certainement, avant de me dire ça aujourd'hui, utilisé cette formule choc, parce qu'évidemment, le choc, elle interpelle. Il y aurait donc un deux poids, deux mesures entre ce que nous acceptons de faire entre humains et que nous n'accepterions pas de faire aux animaux? Parce que c'est ce que vous me dites là.
Mais en fait, c'est que c'est le problème, c'est le contrat. Le problème, c'est le contrat.
Comme il n'y a pas de contrat entre chat et chien, on les laisse entre eux. À partir du moment où, comme bêtes pensantes que nous sommes humains, on peut se faire un contrat, on peut donc aussi séparer la mère de son enfant.
Nous, on pense qu'on ne devrait pas.
Non, mais c'est un peu ce à quoi vous nous forcez à réfléchir.
Oui, oui, parce que ce préjudice-là dans la GPA, il est intentionnel. Il est prévu avant même que l'enfant soit conçu. Cet enfant-là, il est conçu pour être séparé de sa mère.
Mais c'est chargé, ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a un préjudice d'inscrit dans le contrat.
Oui,
qu'il
tout à fait.
Qu'il soit conscient ou non, mais à terme, il y a quelque chose comme un préjudice qui précède la naissance de l'enfant.
Oui, donc nous avons informé le gouvernement dans notre mémoire et on leur a apporté en fait les recherches scientifiques sur l'attachement, sur l'humanisation des naissances, qui montraient qu'un nouveau-né qui est séparé de sa mère, ce que nous disaient les chercheurs, c'était que c'était un traumatisme dont il n'était pas capable de se remettre au niveau de ses hormones de stress, de son rythme cardiaque. Donc, dans la GPA, le problème, c'est que ce préjudice-là, il est intentionnel. Alors que dans l'adoption, ce n'est pas intentionnel. Mmh. Puis, les parents qui font une adoption, ils viennent réparer, tenter pour le mieux de réparer ce préjudice qui n'est le plus souvent, qui n'est jamais nié à l'enfant. Un enfant qui était adopté, on va reconnaître le préjudice qu'il a subi à la naissance.
Par exemple, les contrats qui lient les clients, comme vous les appelez, donc les futurs parents et ces mères porteuses. On peut retrouver toutes sortes de choses dans ces contrats et vous avancez, vous n'êtes pas les seuls, que c'est une forme revisitée d'esclavagisme. C'est-à-dire qu'on va imposer des conditions à ces femmes qui vont prêter ou louer leur ventre pendant les 9 mois où l'enfant des clients est à croître dans leur utérus. Et pouvez-vous développer sur ce qu'on imagine peut-être mal de ce qu'on retrouve dans ces contrats?
Mais pour nous, les contrats, c'est pas le choix de disposer de son propre corps. Au contraire, c'est le renoncement à disposer de son propre corps. Et quand on détaille les clauses des contrats, c'est ça qu'on voit. On voit le renoncement.
Alors pour tous ceux qui ont
la mère porteuse, elle met son corps à disposition des clients, littéralement.
Alors pour ceux d'entre nous qui vous écoutent et qui n'ont pas assez d'imagination, quelles pourraient être certaines des... Alors, entendons-nous bien là. Si c'est vrai dans un contrat ou dans quelques contrats, ça ne veut pas dire que c'est dans tous les contrats, mais essayons de ventiler ce que pourraient être des conditions qui chosifient, d'une certaine façon, les femmes qui choisissent de louer, prêter leur ventre.
Alors, oui. Donc,
je fais attention avec les mots parce que c'est compliqué.
Oui. Mais en fait, c'est juste, je vais vous parler des clauses que nous avons relevées. Nous avons lu la thèse de Mme Carsley, qui est une avocate, elle est publiée à l'Université McGill. Et cette avocate a fait une recherche auprès d'autres avocats. Donc, c'est ce que lui ont dit les avocats. Parce que ces contrats-là, ils sont aussi assez secrets. Les avocats ne les diffusent pas. C'est un petit peu comme leur pratique. Donc, certaines clauses qui pouvaient y être, c'était vraiment un contrôle sur les comportements de la mère porteuse.
Pendant les neuf mois.
Donc, par exemple, on lui demande l'abstinence sexuelle. Donc, de ne pas avoir de relations sexuelles avec son propre mari ou conjoint pendant une certaine durée. Il y a des contrôles sur, par exemple, les comportements alimentaires.
Certaines choses que les parents, clients vont demander, que s'abstiennent de manger ou de boire la mère pendant les 9 mois.
Oui, tout à fait. Puis, quand on y pense, il y avait un article de Radio-Canada d'un homme qui avait fait appel à une amie pour faire porter son enfant. Puis il disait, oh non, mais on lui demande tout simplement de se conférer au guide alimentaire canadien. Mais on ne va pas lui en vouloir si elle va une fois au McDo. Mais juste le fait qu'il y pense, qu'il pense qu'il serait légitimé d'interdire à cette personne d'aller au McDonald's, par exemple. Mais en fait, ça, c'est le contrat qui fait ça. C'est le contrat qui fait ça, qui légitime les clients à avoir ce niveau de contrôle. On pourrait, par exemple, il y a aussi, comme je vous ai dit, c'est la fécondation in vitro. Donc, cette technique est souvent utilisée dans les grossesses pour autrui pour dissocier la maternité et, supposément, faciliter la remise de l'enfant au client.
C'est-à-dire que dans la démarche, pour qu'on se comprenne bien, l'idée de morceler, de diviser la maternité participe de la logique de la transaction.
Tout à fait.
C'est donc inscrit dans la démarche.
C'est le fait d'utiliser cette technique médicale
permet ça. Une
porteuse
et une mère qui est génétiquement responsable du matériel.
Oui. Donc, la mère porteuse, elle va devoir se soumettre souvent à plusieurs tentatives de fécondation in vitro. Et le nombre de tentatives auxquelles elle s'engage sont inscrits, par exemple, au contrat. La fécondation in vitro, on le sait, ça ne marche pas à tout coup. Il y a à peu près 25% de réussite. Donc, si on y pense, ça veut dire que cette mère porteuse-là, elle va peut-être faire jusqu'à 3 fausses couches avant d'avoir une grossesse, par exemple. Donc, tout ça, c'est inscrit au contrat.
Mais dans une logique qui est celle du marché, même si on ne rémunère pas au Québec les femmes qui acceptent de porter, dans une logique libertarienne, vous dirais-je, on est parfaitement libre de choisir de faire ce qu'on veut avec son corps, y compris de s'exposer à faire des fausses couches. Si on veut rendre service à quelqu'un qu'on aime beaucoup en acceptant de porter son éventuel enfant ou en étant payé pour le faire.
Alors, je peux revenir sur peut-être la première partie. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais ça, c'est souvent un mythe qui est véhiculé sur la grossesse pour autrui, sur la maternité de substitution, c'est que c'est une entraide familiale ou amicale. Nous, on a détaillé un échantillon ontarien. Dans cet échantillon-là, 95% des protagonistes ne se connaissaient pas. Donc on n'est pas du tout dans la majorité des cas qui sont des entraides familiales ou amicales.
Mais le fond de ma question, c'est nous sommes tous libres dans cette logique de choisir de prêter ou de louer notre ventre.
Alors, cette liberté présumée, elle porte atteinte à la dignité humaine.
Possiblement, mais vous dites présumé. On pourrait peut-être aussi aller parler à ces femmes. J'en ai rencontré quelques-unes, effectivement, l'an dernier, en fait deux, et qui me diraient aujourd'hui, ben, personne ne m'a jamais forcé. Et j'étais prêt à vivre avec les risques qui étaient associés. Je suis une adulte consentante.
Alors, c'est très intéressant cette question-là du consentement. Tout d'abord, avant de penser même au consentement, il faut penser, est-ce que l'objet du consentement est valide? Parce que ici, la femme, elle consent à la grossesse. Les femmes que vous avez rencontrées, que nous, on respecte, là, on a toujours respecté les mères porteuses. Plusieurs survivantes aussi sont venues nous parler.
Excusez-moi, c'est lourd ce que vous dites. Plusieurs survivantes, comme si une majorité des femmes qui avaient été porteuses seraient mortes dans l'opération?
Alors, la majorité, je n'en sais rien, puisque...
Non, mais c'est parce que ça induit beaucoup de choses. Clémence Trilling, vous êtes d'accord avec moi. La façon de répondre, si on est attentif à ce que vous venez de dire, c'est que dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui meurent dans l'exercice.
Ah, c'est pas ce que j'ai dit, par exemple.
Non, mais vous avez compris ce que j'ai entendu et ce que je pense que vous pourriez avoir laissé entendre.
Alors, c'est pas ce que j'ai laissé entendre. Par contre, oui, il y a des femmes qui meurent dans l'exercice. On travaille beaucoup avec les associations et les féministes américaines. Une féministe de l'État de New York, Tanya Bien-Aimée.
Certaines féministes américaines.
Oui, certaines féministes américaines. Une féministe de l'État de New York, Tanya Bien-Aimée, que j'ai rencontrée l'année dernière. Et en fait, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'on ne recense pas ces décès-là. Donc, ils ne sont pas comptés. Donc, vous me demandez, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a pas de recensement systématique des données concernant la maternité de substitution, en tout cas au Québec et au Canada.
De femmes qui, dans le processus de ces maternités à répétition, ou si c'est pour la première fois, donc lorsqu'elles se livrent à l'exercice, seraient mortes. Parce que, ben d'abord, il y a des risques quand on est enceinte, évidemment, pour toutes les femmes, mais qui seraient davantage exposées parce que les procédures médicales, par exemple avec la fécondité in vitro, font qu'on s'expose davantage à des risques que dans une maternité traditionnelle. C'est ce que vous me dites, il n'y a pas de comptabilité qui est faite ou de suivi sur ces décès.
Non. Alors, ces décès, on les apprend parce que leur conjoint ou leur sœur fait des levées de fonds pour payer les obsèques. C'est comme ça que les associations abolitionnistes, on les a appris.
Un des risques aussi, c'est parce que théoriquement, dans un contrat, les parents s'engagent à prendre l'enfant. Évidemment, si on met au monde un enfant, les parents disent, au jour de l'arrivée au monde de cet enfant, nous, on en prend la charge. Or, on a vu en Ukraine, dans les dernières années, en fait, dans les derniers mois, parce qu'il y a beaucoup de mères porteuses là-bas, où il y avait beaucoup de mères porteuses, des enfants qui n'ont pas pu être remis à leurs parents.
Oui, on est en contact avec une féministe en Ukraine qui nous a dit que dans les orphelinats ukrainiens, eh ben, il y a un certain nombre d'enfants qui en fait proviennent de la maternité de substitution et qui n'ont pas été récupérés par les parents.
Est-ce que je peux vous poser une question? Vous me dites toujours à chaque fois que c'est l'intervention d'une féministe, comme si... ça ajoutait quelque chose au discours. Et vous m'avez mis en garde contre la manipulation par les mots.
Donc, par rapport au mot féministe?
Non,
ou...
en général, dans ce débat, que les mots pouvaient être trompeurs. Donc, pourquoi me dire que c'est systématiquement une féministe qui vous a alerté de ces choses?
Ben parce que c'est notre réseau international, c'est notre source d'information.
Et qui a donc constaté qu'en Ukraine, des femmes n'ont pas pu... Je ne sais pas comment en dire, mais remettre des enfants qu'elle ne désirait peut-être pas avoir.
Alors, en Ukraine, ben, y a eu deux gros événements. Le premier, c'est la COVID, qui a donc complètement mis tous les avions à terre et qui a empêché des clients d'aller récupérer leurs enfants. Donc, on a vu ces chambres d'hôtel avec les petits berceaux alignés. Qui était avec tous ces enfants-là, qui étaient aux soins de nounous, d'employés des firmes de grossesse pour autrui en Ukraine. Et puis ensuite, mais il y a eu la guerre. Donc, pendant la guerre, les femmes, les mères porteuses, elles accouchaient dans des bunkers. Elles donnaient leur consentement sur WhatsApp. On a aussi entendu parler, parce que là, il y avait un petit enjeu pendant la guerre en Ukraine. C'était que en Ukraine, lorsque la mère porteuse accouche, c'est le client qui est le parent. Mais si la mère porteuse, elle va en Pologne, qui est le pays voisin, qui ne reconnaît pas la grossesse pour autrui, eh bien, en Pologne, c'est la mère porteuse le parent. Donc, on a même vu des parents clients
forcer donc le retour en Ukraine de la
demander, au moins demander, donc ils se sentent tout à fait légitimés de demander à une femme de retourner dans un pays en guerre afin que eux soient parents. Et moi, je suis une journaliste qui est très, très bien, qui s'appelle Alison Motluck, qui nous informe beaucoup sur la reproduction, toutes les techniques de reproduction et aussi sur la grossesse pour autrui. Et elle, comment elle a parlé à des parents canadiens qui se sentaient tout à fait légitimés de passer un contrat avec une mère porteuse qui vivait en Ukraine et qui était littéralement sous les bombes.
Combien
donc, ils passaient des contrats au milieu de la guerre.
Est-ce qu'on a idée du nombre d'enfants qui n'ont pas pu être donnés à leurs parents clients parce que la prise en charge était impossible, sinon peut-être difficile en raison de la guerre?
Alors, si vous avez cette information, je serais très heureuse de l'avoir. Parce que,
je vous pose la question, parce que est-ce que c'est quelques enfants ou on peut avoir l'idée ou le soupçon que c'est beaucoup, beaucoup d'enfants qui n'ont pas trouvé leurs parents et qui se retrouvent dans une drôle de situation? C'est-à-dire que les mères qui n'avaient pas vocation à les garder ne seront peut-être pas tentées non plus de s'attacher à ces enfants.
Mais de toute façon, ces mères n'en ont pas les moyens. Parce qu'en Ukraine, les mères porteuses s'engagent dans la pratique principalement pour des raisons financières.
C'est un business.
C'est leur motivation, oui.
Est-ce que vous savez combien sont payées ces femmes pour porter pendant 9 mois?
Alors, une grossesse pour autrui en Ukraine, c'est le pays, on dit dans notre association, c'est le pays à bas coût, c'est le pays low cost. Donc, l'Ukraine, c'est l'endroit où, qui est le moins cher. Donc, c'est avantageux financièrement pour les clients.
Mais donc, comme vous avez bien fait vos travaux et vos recherches, ça coûte combien acheter un bébé low cost?
Alors, on a été voir à l'industrie. En Ukraine, ce serait comme entre 30 puis 50 000 euros, alors que, mettons, au Canada, aux États-Unis, ce serait entre 100 et 150 000 dollars. C'est plus cher.
Ça, c'est pas low cost?
C'est pas low cost, non. Parce qu'on a des meilleurs soins médicaux.
Mais par extension, vous me faites réfléchir, on a de meilleurs soins médicaux. Si on parle du Canada, ce sont des soins médicaux que nous payons collectivement. C'est une santé publique. On est d'accord là-dessus.
Mm-hmm.
Donc, si une femme décidait 4-5 fois d'avoir des enfants pour quelqu'un d'autre, sans être payée, évidemment, contrairement à ce que vous m'avez dit, parce que théoriquement, on n'est pas rémunéré. On pourra aller dans le détail de ça après. Mais faisons l'hypothèse que elles ne sont pas rémunérées, que c'est leur grandeur d'âme qui fait qu'elles veulent porter pour des parents désireux des enfants. À chaque fois, c'est la collectivité qui va payer pour les soins obstétriques de ces femmes, même si ces enfants ont été, pardonnez l'expression, commandés par des parents clients qui vivent à l'étranger. Vous me suivez?
Oui, tout à fait. Donc, oui, effectivement. Donc, nous, dans nos recherches, qu'est-ce qu'on a
vous
vu?
Vous semblez dubitatif. Vous me regardez comme si je suivais un mauvais enjeu.
Non, pas du tout. En fait, c'est juste...
C'est parce qu'on pourrait, si je veux faire simple, on subventionne le creux démographique de pays concurrents. C'est-à-dire qu'on... Ben, c'est ça un peu, non?
Oui, effectivement. Donc, juste pour recadrer cette partie-là. Alors, nous, dans nos recherches, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y a des étrangers qui sont venus au Québec et au Canada pour aller chercher des enfants. Sur un échantillon, par exemple, en Colombie-Britannique, on avait, avant la COVID, là, à peu près 40% d'étrangers qui allaient en Colombie-Britannique.
Ils faisaient affaire donc avec des mères qui étaient en Colombie-Britannique,
oui.
Mais qui... pour lesquels parents, il n'y avait pas d'aspiration à vivre en Colombie-Britannique?
Non, les parents n'étaient pas résidents de la Colombie-Britannique. Il y a un trou dans la loi fédérale, celle de 2004, qui permet le recours aux mères porteuses à titre gratuit. C'est que lorsque l'argent transite à l'étranger, les mères porteuses pourraient être rémunérées. C'est un trou dans la loi. C'est un trou dans la loi fédérale.
Vous dites au conditionnel pourraient ou peuvent être rémunérés dans la mesure où l'argent transite à l'étranger.
Voilà. C'est ça, c'est un trou dans la loi fédérale.
Donc, il est possible pour quelqu'un qui est en Colombie-Britannique ou au Québec, dans la mesure où l'argent n'a pas transité par une institution bancaire canadienne, c'est ce que vous me dites, d'être rémunéré et d'offrir vraiment son ventre à des parents. Mais vous me regardez en faisant les grands yeux.
Mais c'est parce que, Monsieur Bureau, c'est que je n'ai pas beaucoup de données. Et en fait, c'est qu'au Canada, justement, c'est la personne qui a soulevé cet enjeu, elle s'appelle Karen Busby, c'est une avocate. Et puis elle a écrit ce qu'on ne sait pas sur la gestation pour autrui. On n'a pas beaucoup de données, mais cet échantillon-là...
Mais est-ce qu'il faut donc s'inquiéter de ce qui peut-être est extrêmement anecdotique?
Le fait que ce soit des étrangers, mais on ne le sait pas.
Mais non, c'est ce que je vous dis. Puisque ce n'est pas documenté, puisque nous ne savons pas, devons-nous nous inquiéter?
Mais ils sont venus dans les médias. Il y a un couple de Français qui est venu ici et il allait dans les médias, très, très content d'être venu se procurer un enfant au Québec. Et ils sont repartis ensuite à Lyon. Avec leur enfant qui a été obtenu auprès d'une mère porteuse ici. Donc, c'est nous qui avons financé la césarienne. Juste pour recadrer, depuis la loi de 2023, la disposition qui a été prévue, c'est pour les parents clients, c'est qu'il y a un critère de résidence de 1 an au Québec. Donc, nous, on est on n'est pas sûr que ce soit suffisant pour empêcher les étrangers, mais en tout cas, c'est ça quand même qui a été prévu.
Le législateur dit donc, si vous voulez avoir un enfant ou faire porter un enfant à une femme au Québec, il faudra que vous soyez établi depuis 1 an.
Résident et résident. Non pas citoyen.
Non, mais résident. C'est une nuance importante. Peut-être pour éviter justement les commandes à distance.
On va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je vois en ce moment une mère porteuse sur Facebook qui est dans une grossesse pour des clients français. Donc, on va voir dans quelle mesure.
Je me permets d'interrompre l'interview quelques instants pour vous demander une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube. C'est important, ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Vous pensez que par-delà ce qui est officiellement autorisé, il y a des femmes qui sont payées disons, sous la couverture.
Alors, ce n'est pas moi qui le pense. Ça a été témoigné en commission parlementaire. Donc, une avocate a témoigné auprès de Simon Jolin Barrette qu'elle avait constaté des paiements a posteriori. Donc, ce n'est pas moi qui le dis.
C'est, que l'argent avait été payé certaines
oui,
femmes.
Oui, mais ça, le gouvernement a été alerté là-dessus. Parce que
ou qu'il y a des cadeaux qui ont été faits.
C'est quoi l'enjeu des paiements, au fond? C'est quoi? C'est pour augmenter le bassin de mères porteuses. C'est pour augmenter le nombre de femmes disponibles pour cette pratique. Ce qu'on voit au Québec, c'est que les femmes ont quand même des motivations économiques. Il y en a sur l'échantillon québécois, là, le seul échantillon québécois de 15 mères porteuses, il y en a un tiers qui sont monoparentales. Il y en a qui veulent faire un retour aux études. Il y en a qui veulent tout simplement prolonger leur congé maternité pour passer du temps auprès de leurs propres enfants.
Quand vous parlez de cet échantillon de 15 femmes, de quoi parle-t-on? De quelle étude? Parce que j'imagine qu'on a pu poser des questions à plus que 15 femmes porteuses, parce qu'il y en a certainement beaucoup plus que 15 qui ont fait ça au Québec. Donc, de quoi parle-t-on? C'est une étude?
Alors, c'est une thèse qui a été déposée à l'Université de Montréal et l'auteur, c'est Kevin Lavoie.
Qui a suivi 15 femmes.
Oui.
Et les a questionnées sur les raisons pour lesquelles elles étaient participantes à ce genre d'exercice et mesurer aussi leur état de satisfaction.
Oui, donc c'est tout à fait, c'est des études qui vont voir comme plus l'expérience vécue. Mm-hmm. C'est vrai, ça c'était vraiment l'angle de cette étude-là. Là encore, vous me dites, oui, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins? Je ne le sais pas parce qu'une de nos... Le gouvernement disait, il faut encadrer ce qui existe. Il faut qu'on encadre parce que ça existe. Mais le gouvernement ne sait pas ce qui existe.
Ce qui se fait.
Puisqu'il n'y a aucune recension de données. On n'a pas... En fait, moi, ce qui m'inquiète avec la recherche, c'est pas tant ce qu'elle dit, la recherche, c'est ce que la recherche ne dit pas.
Parce qu'il n'y a pas assez de recherche.
On ne sait pas combien il y a de mères porteuses qui sont décédées. On ne sait pas la prématurité des enfants.
Mais est-ce qu'il n'était pas sage pour le législateur de baliser, à tout le moins, une pratique qui, on le savait, existait et qui n'était pas balisée? Faire en sorte, par exemple, que les liens de filiation soient clairs, que les conditions ne soient pas des conditions de marché, mais que, à tout le moins, officiellement, le geste ne soit pas rémunéré. Parce que ce n'était pas la bonne chose compte tenu de ce que la pratique existait déjà.
Alors, peut-être on peut revoir comment on en est arrivé là, comme
ce que
société.
Vous me suggérez. Allez-y donc. Vous avez l'air, dans le pitch, vous avez l'air assez convaincu. Je suis certain que plusieurs qui nous écoutent depuis tout à l'heure se posent cette question. En avez-vous, comme féministe, contre l'idée de la cellule familiale homosexuelle?
Alors, nous, on est pour le droit des femmes.
Mais, okay? Nous, vous, Clémence Trilling, qui est en face de moi. Mais ça compte. Ça compte.
Oui, ben, en fait, dans le fond, c'est... Nous, on veut... C'est une catégorie de personnes qui a recours à la grossesse pour autrui, effectivement.
Mais
ce n'est pas
la
seule.
Mais est-ce que c'est un modèle qui, moralement, pour vous, est inadéquat? Avez-vous des problèmes avec l'idée que des cellules familiales constituées de deux hommes ou de deux femmes existent?
Mais c'est pas les cellules familiales, c'est pas les cellules familiales dont je vous parle. Moi, je vous parle de grossesse et d'accouchement et de mère.
Mais vous répondez pas à ma question.
Mais dans le fond, c'est pas le problème, c'est pas, il y a le père et son conjoint, mais c'est surtout l'absence de la mère. C'est que la mère soit effacée. Et ça, c'est une atteinte aux droits de l'enfant. D'avoir la connaissance et le lien avec sa mère, le lien lui est supprimé. Alors, et puis ça n'a à peu près rien à voir avec l'orientation sexuelle. Donc nous, on hiérarchise pas les souffrances. Vous me parlez des hommes en couple. Moi, je vous parle aussi des hommes seuls. Je vous parle aussi des personnes beaucoup trop âgées pour avoir des enfants. On parle de personnes dans la soixantaine qui font appel à des GPA. Est-ce que c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant de naître dans ces conditions-là?
On sait que ça s'est fait. C'est-à-dire oui? Des parents ou des individus plus âgés qui choisiraient la parentalité à 55-60 ans, par exemple. Mais ça existe dans la nature. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a plein de vieux monsieur qui a 70, Robert De Niro et père à 80 ans. Est-ce
oui,
que ça vous indigne?
Oui, on parle de Robert De Niro et d'Yves Montand. Mais en tout cas, la mère, elle a l'âge d'être parent. Par exemple, il y a un scandale en Espagne, assez récemment, où une actrice assez connue, elle avait pris le sperme de son fils, elle avait acheté un ovocyte et elle avait fait appel à une mère porteuse aux États-Unis, si je me rappelle bien, afin d'avoir un enfant. Elle avait 68 ans. Mais ça, vous me dites, oui, c'est anecdotique, mais moi, ce que je vous dis, c'est que la loi québécoise, par exemple, cette situation-là, la loi québécoise l'aurait tout à fait permis, parce qu'il n'y a pas d'âge maximal pour les parents clients. Donc, vous me dites, oui, effectivement, c'est anecdotique, mais... Moi,
je ne vous dis rien, je vous écoute pas.
Moi, ce que je vous dis, c'est que, dans le fond, c'est... Vous me parlez des balises, effectivement. Moi, je les appelle pas les balises, je dis plutôt des restrictions. Mmh. Et en fait, finalement, il y a beaucoup de ces restrictions-là qui ont été, dans la loi québécoise, qui ont été laissées au marché. C'est le marché qui va décider le nombre de GPA qu'une mère porteuse peut faire.
Expliquer qu'en ce moment, dans le monde, la législation sur des pays assez semblables soit à géométrie variable? Par exemple, que le Québec ait choisi d'encadrer, alors qu'en France... Il n'y a rien qui ressemble à ça.
Mais nous, on pense que les...
Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'en ce moment, il n'y a rien qui ressemble à une pratique au diapason? Donc, c'est, vous le disiez, en Ukraine, tout à fait possible. La mère porteuse peut donner son enfant sans qu'il y ait aucun accroc à la loi et que le parent d'adoption ou le parent client puisse réceptionner son enfant, alors que si cette même mère est en Pologne, ben soudainement, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'elle perd pas son lien de filiation avec l'enfant.
Effectivement. Donc, mais la différence entre le Québec et la France, nous, on pense que le législateur québécois, il a un sens moral et éthique tout aussi développé que les législateurs français ou les législateurs polonais, peu importe, mais qu'ils ont été mal renseignés. En fait...
Mais vous avez essayé d'être entendu?
Oui, notre groupe, le WDI, parce que je suis aussi membre du WDI, Québec, Women Declaration International.
Vous le dites avec un de ces airs, le Women Declaration International.
J'essaye.
Mais on vous a prêté peu d'attention parce que vous n'êtes pas crédible, parce que vous menez le mauvais combat. Je suis pas de mauvaise foi, j'essaie d'imaginer. Non, mais ça a été adopté à l'unanimité. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu, moi je me méfie toujours de l'unanimité. Je suis comme ça. Mais si c'est arrivé... C'est que l'essentiel de tous les gens qui ont réfléchi à cette chose et qui agissent en notre nom ont estimé que sur la route du progrès, cette histoire de la maternité de substitution était un gain net.
Alors, ben pour nous, c'est pas du tout un progrès, c'est un retour complètement en arrière, en fait. Parce que pour moi, ils vivent dans un monde déjà imaginaire où les enfants et les capacités reproductrices des femmes n'ont jamais fait l'objet de convoitises. Je vais vous citer, en fait, moi, je trouve qu'au Canada et au Québec, on était très bien partis. Quand on a commencé à réfléchir à la maternité de substitution, en fait, c'était dans les années 90. On a une commission royale, donc ça, c'est au fédéral. Puis, eux, ce qu'ils nous ont dit, puis ça résume tout pour moi, ça résume, ce qu'ils disaient, c'est selon l'analyse des données disponibles, les bénéfices pour quelques personnes sont faibles à comparer du tort causé à d'autres et à la société. Et moi, ce que je pense, c'est que le législateur québécois, mais il a eu le point de vue du client et de l'industrie. Mais il n'a pas nécessairement pu mesurer, parce que entre autres à cause du manque de données, le tort qui sont causés à d'autres, mais aussi à l'ensemble de la société.
Alors Clémence Trillinger, vous me parlez de l'industrie. De quelle industrie parlons-nous? Parce qu'il n'y a pas une industrie organisée autour de la GPA, il n'y a pas des lobbyistes de la GPA. Peut-être que je me trompe, mais... Dans le fond, l'industrie, quand je parlais d'un chiffre d'affaires de 100 milliards, ça sera ben, tous ceux qui, de près ou de loin, vont, par les techniques de fécondité, par l'accompagnement pendant la grossesse, vont générer du chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas encore une industrie organisée. Il n'y a pas un business nulle part.
Alors, ce terme « industrie », ça ne vient pas de nous, justement, les féministes. Ça vient du gouvernement fédéral. Et lorsqu'il parle dans son ses écrits sur la procréation assistée, il parle des cliniques et des intermédiaires. Et il inclut dans l'industrie les mères porteuses. Donc, ce terme « industrie » ne vient pas de nous, il vient du fédéral.
Je répète que vous n'êtes... pas accablé, vous n'êtes pas au procès, mais d'aucune façon. Je suis à faire avec vous l'exercice que peut-être plusieurs d'entre nous n'ont pas fait, c'est-à-dire d'étudier ou de regarder ce qui, par définition, nous échappe, ce qui était ou ce qui est dans l'angle mort. Après, il y a des questions éthiques et morales qui sont difficilement arbitrables parce qu'on croit une chose bonne ou pas. Mais je répète, donc, vous n'êtes pas ici accablé. Vous me parlez d'industrie. Vous me dites que c'est le gouvernement fédéral qui emploie l'expression et qui considère que les femmes qui portent sont une portion aussi de cette industrie.
Oui, oui. Même donc si ils les ont inclus dans l'industrie. Puis, quand on parle d'industrie, de quoi parle-t-on ou juste? On va parler, par exemple, des agences. Donc, les agences qui existent au Canada... en fait, les agences, elles agissent à la frontière de la loi.
Parce que c'est l'agence qui va trouver une femme pour répondre aux besoins de vos parents clients.
Alors, les agences, ce qu'elles facturent, ce qu'elles font, c'est des services connexes. Parce qu'en fait, on parle ici de maternité de substitution qui n'est pas rémunérée. Mais tout le monde est rémunéré, sauf la mère porteuse. Donc, la mère porteuse, elle va se faire un compte de dépenses avec certaines dépenses qui sont admissibles. Elle va garder ses reçus et les soumettre aux parents clients. C'est comme ça que ça fonctionne au Canada. Il y a un règlement. Et en fait, les agences, par exemple, elles vont facturer aux clients le fait de gérer ces reçus et ces remboursements pour que eux n'aient pas à penser à l'argent. Donc, elles facturent comme des services
périphériques.
C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Comment? Il y a une agence, Canadian Fertility Consulting, qui a été reconnue coupable d'avoir donné de l'argent à des mères porteuses sans reçu. Canadian Fertility Consulting a plaidé coupable.
Une forme de rémunération.
Oui, ils ont plaidé coupable, ils ont payé leurs amendes et ils ont continué à être en affaires.
J'ai vu ou entendu, c'est peut-être à la faveur d'une entrevue que vous aviez donnée, qu'il y a des salons de la maternité ou de la grossesse par autrui. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, donc dans le hall au salon, en fait, c'était un salon à Paris. Là, la date m'échappe.
Mais ça existe donc.
Oui, tout à fait, le salon à Paris, donc qui avait des stands pour recruter donc des clients ici français afin de leur présenter des services de GPA.
Est-ce qu'on choisit la mère à la carte, la mère porteuse?
Alors ça, c'est une excellente question. Ce qui se passe en ce moment au Canada, ce que m'a dit Alison Motluck, c'est très difficile de recruter les mères porteuses. Il y aurait à peu près une mère porteuse pour 100 demandes, locales ou à l'étranger.
Donc le marché est très déséquilibré.
Oui, au Canada en ce moment. Alors est-ce que le Canada est la destination numéro un? Je vous dirais, en ce moment, ils sont en pénurie de mères porteuses.
Vous l'avez déjà écrit dans la presse.
J'ai dit que c'était une plaque tournante et qu'il allait devenir. Les mères porteuses sont en pénurie en ce moment et de ce que me dit Alison Motluck, cette pénurie, elle serait un petit peu en augmentation. Alors, est-ce qu'on choisit la mère porteuse? Ben, ça dépend de ce qui est disponible.
Si.
Mais par contre, on choisit la pourvoyeuse d'ovocytes, puisque elle, on va choisir les ovocytes sur des caractéristiques génétiques et physiques jugées avantageuses par les clients. Donc, il y a carrément un catalogue, en fait, d'ovocytes. On va regarder l'indice de masse corporelle, la taille, l'âge. La couleur des yeux, exactement. Le quotient intellectuel ou celles qui ont été dans des universités. Leurs ovocytes sont plus chers.
Donc, vraiment, à la carte, il y a des caractéristiques pour lesquelles on paiera plus cher pour avoir ovocytes à une ovule, quoi.
Oui, ovocytes, ovule, oui. Donc c'est plutôt ça qu'on va sélectionner.
Est-ce que ça s'approche pour vous de quelque chose qui serait de l'eugénisme?
Ben si ça c'est pas de l'eugénisme, c'est vraiment on sélectionne les caractéristiques avantageuses. Donc on est c'est aussi il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand je préparais l'entrevue, c'est vraiment le choix du sexe. Donc, par exemple, en Ukraine, c'est automatique.
C'est-à-dire?
Donc, les clients ont le choix du sexe, puisqu'ils se retrouvent avec plusieurs embryons devant eux. On est en fécondation in vitro, on n'est pas en fécondation naturelle. Donc, ils se retrouvent avec plusieurs embryons devant eux et on leur demande, est-ce que vous voulez un garçon ou une fille? En Ukraine, c'est inclus. Donc, pourquoi c'est une industrie? C'est que c'est vraiment, il y a des offres, il y a des packages, il y a les... vous avez le choix du sexe qui est en Ukraine, c'est toujours inclus, mais ça peut être en option. Au Canada, théoriquement, il est interdit, mais pas aux États-Unis, par exemple.
La prochaine étape, c'est d'offrir le potentiel de revenu de l'éventuel individu. Acheter. C'est une blague, Clémence Trilling.
Je ne sais pas, mais je pense que peut-être la population a peut-être pas poussé le raisonnement aussi loin que ça.
Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'on ait choisi de pas vous entendre davantage ou, je ne sais pas si vous êtes infréquentable, mais de ne pas avoir... C'est aussi une blague. C'est possible de garder un minimum de sens d'humour dans les circonstances, c'est le souhait.
Oui, il n'y a pas de problème.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on se soit si peu attardé à tout ce que nous venons ensemble de ventiler, qui sont des enjeux tout à fait recevables.
Peut-être, je vais revenir peut-être à comment on en est arrivé là. Parce qu'il y avait cette commission royale qui avait levé les bons drapeaux, qui avait vu, en fait, qui avait pris la notion du bien commun. Le bénéfice, c'est pour quelques personnes, mais qu'en est-il des conséquences pour le bien commun ? Donc, pour moi, on a comme légiféré sur des cas particuliers. Puis, on avait le Conseil du statut de la femme, qui, en 1989, avait recommandé la fécondation in vitro comme ultime recours, seulement dans des cas d'infertilité. Il y avait les avocats, qui avaient aussi recommandé, en fait, eux, de pénaliser les intermédiaires. Le barreau du Québec avait recommandé de pénaliser les intermédiaires. Et on avait un frein très important à cette industrie, qui était l'article 541, qui a été voté en 1994. Et cet article, il dit toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle et de nullité absolue. Et ces conventions sont contraires à l'ordre public, qui est le bien commun. Cet article, c'est lui qui a été enlevé en juin 2023.
Mais je vous ferai valoir que depuis 1994, socialement, alors certains pourront dire que c'est pas un gain net, d'autres vous diront que c'est formidable, mais on a changé notre fusil d'épaule sur plein de sujets. On a légalisé, par exemple, le mariage gay. Il y a une époque pas si lointaine où on n'aurait jamais imaginé le faire. Donc les choses changent. Si en 1994, de votre point de vue, on avait vu juste, il est possible aussi que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on dise « Ah, peut-être qu'il faut réviser ce qu'était notre a priori de l'époque. »
Mais je ne pense pas que c'était fondé sur un a priori, justement. C'était fondé sur les principes éthiques. Et donc, la question, c'est est-ce que la dignité humaine a changé depuis 1994? Je ne pense pas. je ne pense pas que les droits des enfants ont changé depuis 1994. Les conventions de GPA et pourraient être en opposition avec l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant que le Canada a signé.
Alors, je reviens à une des choses qu'on s'est dites très tôt, on n'en a pas fait la démonstration, c'est la manière de présenter les choses, les mots que nous avons employés ou qui ont été employés pour apparemment nous rallier à cette idée, peuvent être trompeurs. D'autres, il y a très longtemps, nous ont mis en garde contre les mots. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dit ou comment aurions-nous été manipulés, je ne sais pas comment dire, par des mots qui nous ont fait ignorer certains de ces angles morts dont je parlais? Revenons aux mots.
Alors, revenons aux mots. La loi, hein, la loi qui a été votée, elle s'appelle la loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation, visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression. Donc ça, c'est un aspect de la loi qu'on ne parlera pas. Ainsi que sur les droits des mères porteuses et les enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui. C'est le seul endroit dans la loi où le mot « mère » est écrit. On dit personne femme ou personne qui a accepté de donner naissance. Donc, on voit ici
conceptuellement,
que,
c'est très différent.
Oui, c'est très différent. Mais par contre, dans le titre, il y avait « mère porteuse ». Dans la plaquette d'information actuellement du gouvernement, il y a le mot « mère porteuse ». Donc, c'est pour rassurer la population, mais en dessous, on efface la mère. On y va avec « femme porteuse » ou « porteuse ». Ou porteuse gestationnelle. Donc, c'est des termes qui sont, pour nous, ce sont des termes qui sont déshumanisants. Et puis, par exemple, les parents clients, l'industrie les appelle les parents d'intention. Donc, ça maquille le contrat, ça maquille la convention, ça maquille la transaction. Peu importe finalement la rémunération, la seule rémunération de la mère porteuse, puisque tous les intermédiaires autour, eux, sont rémunérés et gagnent de l'argent.
Et beaucoup dans la chaîne gagnent de l'argent.
Mais c'est un marché en croissance, effectivement.
Si on allait aux États-Unis, on pourrait payer une femme légalement là-bas pour porter un enfant?
Oui, mais alors ça dépend des États. Ça dépend des États. L'État de New York, qui en fait ressemblait beaucoup au Québec, parce que les contrats étaient interdits. L'État de New York, enfin c'est New York qui est un peu juste à côté au New Jersey, mais c'est là où il y a eu un cas qui s'appelle le cas de BBM dans les années 80, et c'était une mère porteuse qui a refusé de remettre son enfant et qui n'a pas pu le garder. L'enfant a été remis aux parents qui ont commandé.
Les parents d'intention.
Les parents clients. Mais dans ce...
Mais je vous rappelle que dans le formulaire du gouvernement, ce sont maintenant des parents d'intention.
Voilà. Donc, c'est comme vous dites, on nous met des mots dans la bouche. Et puis, donc, ils avaient... Finalement, l'État de New York avait la même loi qu'au Québec, c'est-à-dire que les contrats étaient interdits. Et pendant la COVID, au milieu de la COVID, à la fin d'une loi sur le budget... La grossesse pour autrui commerciale a été paramétrée dans l'État de New York.
Donc en catimini.
En 2020, en fait, en 2020.
Mais c'est ce que vous dites, c'est que ça s'est fait un peu à l'insu de tous.
Oui, oui.
Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce qui fait, selon vous, que la majorité, l'unanimité des gens qui siègent au Québec, à l'Assemblée nationale, se sont ralliés à ça. Donc, vous êtes très, très, très minoritaire ou on est peut-être dupe de ce qui s'est passé puis on n'a pas posé suffisamment de questions.
Alors, écoutez...
La question est légitime,
oui, non? Oui, c'est très légitime. Donc, au Canada et au Québec, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en 2004... il y a eu la loi sur la procréation assistée qui a permis le recours aux mères porteuses à titre gratuit. Donc, ici, on est au fédéral. Donc, ça, c'est depuis 2004. Mais au Québec, on avait l'article 541. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que l'article 541, il a été érodé au fil du temps par les tribunaux. Donc, les clients se sont présentés devant les tribunaux et ont mis les tribunaux devant le fait accompli.
Donc, ils ont demandé aux tribunaux de trancher,
voilà,
de créer de la jurisprudence.
Donc, on n'était plus dans un débat législatif. En 2014, il y a eu un jugement qui a permis en fait, d'utiliser une procédure qui s'appelle l'adoption par consentement spécial. Donc, les clients se sont présentés devant les tribunaux le fait accompli. Et on demandait, en fait, que la mère porteuse puisse renoncer à ses droits parentaux au profit du conjoint du père, du conjoint ou de la conjointe du père. Donc, c'est cette procédure-là qui est utilisée depuis 2014. Ensuite, on a eu le rapport du comité consultatif sur le droit de la famille qui, en 2015, a recommandé l'encadrement. Donc, c'est cette suite, en fait, de
avait mis la table.
Oui, c'est ça. Et en fait, en 2021, il y a eu un jugement qui s'appelle le jugement Moore, qui a déclaré les mots père et mère discriminatoires et qui a poussé le gouvernement, en fait, à réviser son code civil. Donc, c'est... Je vous dirais que le gouvernement, il a été aussi poussé, par, entre autres, par les tribunaux. Donc, ça pourrait être une des explications de cette unanimité.
On tire à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que, selon vous, ces choix moraux et éthiques, parce qu'il y a des choix moraux et éthiques qui opèrent ici, annoncent sur le monde d'aujourd'hui, mais surtout de demain?
Mais est-ce que je peux vous raconter une histoire?
Vous pouvez certainement me raconter une histoire. Est-ce que ça va répondre en partie à ma question?
En partie, en partie. Parce que l'industrie, elle en raconte beaucoup des histoires. Alors, moi aussi, je vais en raconter. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Britt. Britt, elle vit aux États-Unis. Elle est mère porteuse.
On sait qu'elle existe?
Oui, elle existe.
On pourrait la retrouver?
Oui, vous pouvez la retrouver, Britt.
Allez-y.
Il n'y a pas de problème. Donc, Britt, elle est mère porteuse. Elle vit aux États-Unis. Elle est enceinte de 24 semaines. Et Britt, elle apprend qu'elle a un cancer. Alors, elle va voir son équipe d'oncologie et elle souhaite poursuivre sa grossesse et avoir un protocole qui n'a pas de danger immédiat pour l'enfant. Elle est enceinte pour deux hommes et ces deux hommes essayent, par lettre d'avocat, de l'empêcher d'avoir ses propres traitements pour elle-même. Donc, vous vous rendez compte, ces hommes, on pourrait dire, ils sont pas sympathiques, mais c'est la loi qui leur permet, ils se sentent légitimés
de mettre en demeure la mère porteuse d'arrêter ses traitements au nom de l'impact potentiel que ça pourrait avoir sur leur futur enfant.
Voilà. Britt, une semaine plus tard, elle apprend que son cancer est beaucoup plus agressif et qu'elle doit avoir ses traitements très rapidement et qu'elle ne peut pas poursuivre sa grossesse. Les hommes avaient précisé par contrat qu'ils ne prendraient pas d'enfants de moins de 38 semaines de grossesse. Britt va voir son hôpital et elle l'organise pour qu'elle puisse accoucher. Et l'hôpital, le milieu, organise aussi pour trouver des parents qui seraient prêts à adopter cet enfant-là, malgré la prématurité. 24 semaines, c'est très dangereux, effectivement, il y a beaucoup de risques, mais on peut avoir des enfants qui restent en vie et qui se développent. Et en fait, les hommes refusent. Ils refusent que leur enfant soit mis à l'adoption. On est aux États-Unis, il n'y a pas de consentement de la mère porteuse après d'avoir accouché. Les hommes sont son père dès la naissance, et cet enfant-là n'a pas eu de soins et est décédé. Puis, pour le futur, en fait, qu'est-ce que ça nous dit l'histoire de Britt? C'est déjà qu'ils sont légitimés d'agir directement sur son corps, mais aussi c'est qu'ils ont rompu toute la chaîne de solidarité qui s'était organisée autour de cet enfant-là. Il y avait des gens qui étaient prêts à l'adopter. Donc, pour moi, c'est pour nous, c'est que c'est pour le futur, c'est ces valeurs-là qu'on porte dans la société québécoise d'égalité homme-femme, de dignité humaine, de droit des enfants. Puis c'est ces valeurs-là finalement que si on accepte la GPA dans certains cas, on va à l'encontre de nos propres valeurs.
Concevez-vous qu'il pourrait être possible d'offrir la GPA dans des cas plus rares, quand il y a effectivement des enjeux d'infertilité, peut-être aussi pour, les couples gays, accepter qu'il y ait des critères très stricts où on pourrait dire oui, le jeu en vaut la chandelle, mais on va créer les conditions pour ne pas transformer ça en un Far West du business, où selon vous, il n'y a aucune manière de négocier avec ces enjeux éthiques et que l'abolition comme solution?
Alors, dans tous les endroits où ça a été encadré, il y a le Royaume-Uni, puis il y a nous ici au Québec. Québec et Canada, on est dans le common law britannique. Au Québec, c'est le code civil, mais dans tous les endroits où ça a été encadré, c'est très simple. C'est les lois du marché qui s'appliquent. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de mères porteuses au Québec. Les Britanniques sont très nombreux à aller en Ukraine, à aller maintenant en Afrique, qui est la prochaine destination qui va devenir populaire. Et puis, ils ont même demandé à ramener leur mère porteuse au Royaume-Uni pour qu'elle accouche, parce que c'est un commerce, donc il y a une livraison à domicile. Donc, dans tous les endroits où on a tenté d'encadrer, le marché déborde.
Clémence Trilling? L'affaire n'est donc pas parfaitement entendue parce que vous continuez à vous opposer?
Bien sûr, on n'a pas dit notre dernier mot.
Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Vous avez eu l'occasion d'en prononcer quelques-uns ici, des mots. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous aider peut-être à voir plus clair dans ce qui était ce que j'ai appelé l'angle mort. Je suis certain qu'il y aura des gens pour nous écrire nombreusement pour nous dire que l'affaire est plus simple que ce que vous avez décrit. Et je demeure convaincu que devant l'unanimité, ça valait la peine de vous entendre. Merci beaucoup. Voilà qui complète cet épisode de Contact. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, faites des likes. Si vous n'avez pas aimé ça et que vous avez envie d'en discuter, faites des commentaires. Dans tous les cas, partagez la bonne parole. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à une de nos chaînes. Stéphane Bureau au microphone, c'est Marie-Anne Grenon qui est notre recherchiste et productrice. Jeanne Croteau est à l'assemblage de l'émission. À tous, à très bientôt.